11h sur Radio Campus Tour. Bienvenue si vous nous rejoignez avec moi en studio, Kylian Stangel. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Kylian Stangel, nos auditeurs ont déjà eu le plaisir de vous entendre sur nos ondes puisque vous étiez venu nous parler des rencontres François Rabelais il y a peu.
Oui, tout à fait, il y a quelques années, oui, une activité annuelle.
Et alors cette année, elles existaient, ces rencontres François Rabelais, mais elles ont été dématérialisées.
Elles ont été dématérialisées, oui, tout à fait, comme tout événement aujourd'hui qui devient digital, ou tout du moins hybride. Les rencontres François Rabelais qui devaient avoir lieu au mois de novembre ont, du fait, été reportées en différentes dates entre janvier et avril. Et la programmation est tout aussi intéressante et attire tout autant de monde. On aura à nouveau, on l'espère, un événement en présentiel, en physique, au mois de novembre 2021.
Voilà, donc on peut retrouver aussi, j'imagine, des événements qui ont eu lieu cette année. C'est toujours en ligne, c'est toujours sur les...
Tout à fait, toutes les tables rondes qui portent cette année sur la notion de bien manger pour tous, gastronomie pour tous, sont en lecture, en replay, sur le site de l'IEHCA.
Merci Kylian Stangel. Donc vous êtes ancien professionnel des secteurs alimentation et gastronomie, enseignant-chercheur à l'université de Tours, spécialisé sur le fait culinaire et œnologie. Alors avant de s'intéresser plus avant à un ouvrage qui vient de paraître sous votre direction, voilà, qui s'appelle Identité alimentaire et héritage gastronomique paru chez L'Harmattan, peut-être qu'il serait intéressant, si vous le voulez bien, de revenir sur votre parcours, donc il me semble assez intéressant pour nos auditeurs étudiants. Donc il me semble, comme on peut le voir sur votre blog, kylianstangel.com, voilà, que vous avez commencé par un CAP jusqu'à devenir docteur. Dans les sciences de la communication. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez dire de votre parcours?
Bon ben, toutes les vies méritent d'être racontées, il n'y a rien de plus original qu'une autre. Ça commence naturellement par un gamin qui travaille pas bien au collège. Et puis bon, je viens d'un milieu familial qui ne me permettait pas d'avoir de l'argent de poche, donc le week-end, les soirs de semaine, et puis pendant les vacances, ben, j'allais travailler dans un restaurant en tant que serveur depuis l'âge de 13 ans. Et naturellement, au collège, ben, je passais mon temps à dormir pour récupérer. Donc, par la suite, mon papa m'a proposé de faire un apprentissage dans une pizzeria et un copain de mon père dans un 3 étoiles Michelin. Donc, c'est le 3 étoiles Michelin qui a été opté. Et puis, ça a marché. J'ai trouvé, au sein de cette formation par apprentissage, dans le cadre d'un CAP, j'ai trouvé un genre de famille. Hein. D'ailleurs, la restauration s'appelle souvent une famille. Qui m'a piloté, drivé pour me faire évoluer dans les différents relais et châteaux, 2 étoiles et 3 étoiles Michelin. Et puis, j'ai fini maître d'hôtel. J'ai ensuite ouvert mon hôtel-restaurant avec un associé, et puis, enfin, avec deux associés. Et puis, l'un d'eux est parti avec la caisse. Donc, au même moment, j'ai eu différentes propositions. J'ai le guide Michelin qui m'a proposé de devenir inspecteur. J'ai ma femme qui m'a proposé de faire des enfants. Donc, les deux premiers éléments n'étaient pas compatibles. Étant donné que le guide Michelin est 10 mois sur la route. Et la troisième offre, c'était l'école hôtelière de Paris qui me proposait de remplacer au pied levé. Donc, voilà, je suis devenu prof en école hôtelière par occasion au départ, bien que c'est quelque chose qui me motivait. Bon, c'est vrai que quand j'étais maître d'hôtel à Paris, entre le service du midi et le service du soir, j'allais à Jussieu ou dans différentes facs où je rentrais en catimini pour aller écouter des cours essentiellement psy, ça m'intéressait bien, un petit peu de beaux-arts, un petit peu de Sciences Po. Je me suis amusé à traîner dans les amphis, bien que je n'en avais pas les compétences pour comprendre ce qui se disait, vu les prérequis que j'avais. Mais bon, malgré tout, ça, j'en gardais une légère substance. Et puis par la suite, on m'a proposé de devenir prof enfin formateur en milieu carcéral à Marseille. Et ce que j'ai tenté pendant 1 an, et ensuite en institut de rééducation médico-psychologique à Versailles, ce qui m'a petit à petit donné une identité de formateur un peu spécialisé. Concours de prof étant, je fais une profession, enfin une carrière en tant qu'enseignant en école hôtelière, puis je deviens inspecteur de l'Académie de Paris. En charge des différents métiers de bouche, pas uniquement l'hôtellerie, la boulangerie, la boucherie, ces choses-là. Et puis ensuite, eh bien, ma femme est mutée à Tours, donc je suis affecté également à Tours et je rencontre Jean-Pierre Corbeau, un sociologue émérite sur la place de Tours, qui me fait découvrir les activités de l'IUHCA. Et qui me permet donc d'être un prof du secondaire affecté à l'université, ce qu'on appelle un PRCE. Oh, puis au fil du temps, du coup, on passe d'autres diplômes en candidat libre, des BEP, des BTS, des masters. Et puis un jour, il y a un prof de Bourgogne en sciences infocom avec qui je collabore dans les rencontres François Rabelais, justement, qui me dit ben, « J'aime bien ton profil, j'aime bien les bouquins que tu as écrits et je te proposerais bien de faire une thèse ensemble. » Donc voilà, on est arrivé à la thèse.
Alors, quelques questions, si vous voulez bien. Cette idée d'entrer en apprentissage dans un hôtel 3 étoiles, alors est-ce qu'il y avait une différence entre la culture alimentaire, culinaire de votre famille et cette culture-là?
Alors oui, naturellement, si on s'arrête aux souvenirs, dans le premier restaurant où j'avais travaillé, la culture alimentaire était assez proche de ce qui se passait en famille, parce que je me souviens de bouchées à la reine, de choses très très grasses et très contemporaines pour le milieu des années 80. Alors que quand je suis arrivé en 3 étoiles Michelin, je voyais un travail beaucoup plus raffiné sur l'esthétisme déjà, alors qu'on était fin des années 80. On voyait des recettes qui étaient plus historiques. Le chef cuisinier qui s'appelait Marc Menot à Vézelay est spécialisé sur les recettes du 19e siècle de la cuisine bourgeoise. Il passait son temps à acheter des grimoires pour aller puiser ses recettes dedans. Et puis rapidement, pour moi, c'est devenu un petit peu un père paternel. Il m'a pas mal épaulé et rapidement, il m'a mis le nez dans sa bibliothèque. Ce qui fait que j'ai compris un peu l'intérêt aussi de profiter d'une lecture d'historicité pour arriver à créer le présent, tout du moins vis-à-vis de la production culinaire. Donc oui, j'ai vu une différence entre déjà l'historicité orale qui était transmise dans ma famille, des recettes alsaciennes et bourguignonnes de mes origines, par rapport à une lecture retravaillée de recettes historiques livresques.
Alors cette idée de, comment dire, comme l'a fait Marc Menot par exemple avec vous, l'idée de lier la pratique et le savoir ou théorique ou en tout cas historique, c'est quelque chose qui en tout cas pour vous a été, pas une rampe de lancement, faut pas exagérer, mais en tout cas qui vous a construit
Première
peut-être.
découverte, oui, tout à fait. Bah, d'autant que dans ces premiers moments, il y a eu d'autres acteurs. Il y a eu, par exemple, le maître d'hôtel que je regardais intensément, vu que j'étais plutôt en salle, qui était comme le sommelier, c'était les sachants. Dans une équipe de serveurs, le maître d'hôtel et le sommelier sont les personnes qui viennent pour être écoutées par le client. Et j'aimais bien cette façon d'arriver à vendre un produit en l'illuminant par les mots. Et c'est surtout ça qui m'avait, dès le départ, assez fasciné. Et puis bon, j'ai eu une occasion, durant ces premières années, je me suis retrouvé à être le serveur particulier de Serge Gainsbourg, qui est venu, pendant quelques temps dans l'établissement, au moment de la fermeture de l'établissement. Donc il y avait juste un cuisinier et un serveur. Et j'ai passé, l'ensemble de mes journées, à ses côtés, et du coup j'ai pu échanger avec ce bonhomme qui était vraiment sur la fin, c'était ces derniers mois. Mais du haut de mes 18 ans, naturellement, j'avais pas du tout la verve pour arriver avoir un échange construit et réfléchi avec lui, mais je lui ai montré les quelques poèmes que j'écrivais étant ado, et il a pu me donner un petit peu son retour. Lui-même, du coup, m'avait demandé un petit peu ma vision de ce qu'était cet illustre bonhomme et pour lequel j'étais pas un amateur total. Donc, ça, j'ai pu, du coup, à cette occasion-là aussi, comprendre la raison pour laquelle quelqu'un écrit de telle ou telle manière. Et puis, toujours ce bonhomme aux oreilles de chou avait quelque chose qui m'a vraiment signifié dans mon métier de serveur et l'analyse du métier de serveur, c'est qu'il demandait toujours à ce qu'on lui prépare un cocktail, le fameux cocktail à base de Bacardi qui s'appelle le Daiquiri. Et lui tapait le tempo sur le comptoir à l'aide de son Zippo pour m'obliger à ce que je théâtralise finalement un geste qui pour moi est un geste technique, mais à lui amener une dimension un petit peu artistique. Et il m'a fait comprendre que finalement, le métier d'un porte-assiette peut être transformé, peut être analysé et transformé juste en s'adossant à une autre discipline qui peut être l'art musical.
Et alors, toutes ces expériences d'enseignement, comment elles ont pu influencer votre rapport au savoir et est-ce que ça a un effet sur la façon dont vous enseignez, puisque vous intervenez évidemment aussi auprès d'étudiants?
Alors là, il faudrait le demander à mes étudiants. Parce que quand un enseignant enseigne, avant tout, il est focalisé sur ce qu'il doit dispenser. Sa méthode pédagogique ou didactique, il est clair qu'il l'imagine sous une forme théorique. Maintenant, il y a toute l'émotion que l'on et la sensibilité qui s'appuie dessus que l'on utilise pour essayer de transmettre ce qu'on dispense. Mais est-ce que réellement j'utilise à bon escient ces anciennes expériences de vie pour arriver à transmettre adéquatement? Ça, c'est pas moi qui peux m'en apercevoir. Il est clair que ça m'aide d'amener une anecdote parcours et de me rappeler que la lecture d'un geste technique culinaire n'est pas qu'uniquement de la technicité, mais avant tout une lecture contextualisée, autant d'une manière spatiale que d'une manière temporelle. Oui, évidemment, ces différentes expériences vécues aident en ce sens.
Mais est-ce que c'est-à-dire que dans votre façon de transmettre, d'enseigner les choses, peut-être que vous pouvez aussi avoir une façon, comment dire, sans que ce soit, enfin l'idée c'est pas que ce soit, je suis pas dans le jugement de valeur, hein, mais de dire que peut-être quelque chose de moins scolaire, entre guillemets. Peut-être qu'il
C'est un
parle.
défaut finalement d'être moins scolaire aussi quelquefois. Hein. L'enseignant du début que j'ai été, les premières actions d'enseignant que j'ai été dans le secondaire, m'aperçoit que je ne faisais qu'utiliser mon expérience de vie et que je m'éloignais des programmes et des référentiels de formation, alors que ces référentiels n'avaient pas été construits par une personne, mais par un collège d'individus qui ont réfléchi à ce qui doit être retenu dans la transmission et ce qui n'est pas vraiment nécessaire. Et un enseignant qui ne fait que parler à travers son expérience, au bout d'un moment, il tire beaucoup la couverture vers lui quand même, hein. Donc, c'est peut-être en cela où les programmes, avec toute la théorie qu'ils obligent, ces référentiels de formation, sont quand même utiles, parce qu'ils permettent d'avoir une relativité, un recul sur ce qu'on enseigne et pas uniquement une vision focalisée et très personnelle.
Donc un savant mélange, un savant dosage.
Savant, je ne sais pas, mais un dosage, oui.
Merci Kylian Stangel pour cette introduction, disons, à cette émission. Je vous propose justement de faire une première pause musicale et écoutons donc Serge Gainsbourg, l'homme à tête de chou, puisque vous l'avez indirectement suggéré.
Je suis l'homme à tête de chou. Moitié légume, moitié mec. Je pour les beaux yeux de Marilou. Je suis allé porter au clou ma Remington et puis mon break. J'étais à fond de cale, à bout de nerfs. J'avais plus un copec. Des jours où je me mis avec elle, je perdis à peu près tout. Job, la feuille de chou, un scandale qui me donnait le beefsteak. J'étais fini, foutu, échec, et mat aux yeux de Marilou, qui me traitait comme un blanc bec, et me rendait moitié coucou. Oh non, tu peux pas savoir, mec. Il fallait les discothèques et bouffer au kangourou club. Alors je signais des chèques sans provision, j'étais fou, fou. À la fin, j'y fis le caillou comme un melon, une pastèque. Mais maman, je vais pas tout déballer comme ça, aussi sec. Quoi, moi, de mes rancors, des clous. Écume Varec sur la plage de Malibu.
L'homme à tête de chou de Serge Gainsbourg dans la Méridienne sur Radio Campus Tour. Alors, Kylian Stingel, vous expliquiez hors antenne, et j'insiste parce que c'est un souvenir intéressant, voilà que vous avez validé une chanson de Serge Gainsbourg. Alors...
Oui, non, bah, y avait tout simplement... On était en 91 et il avait reçu Requiem pour un con en remix 91. Et il m'a dit, écoute, moi, là, j'en ai marre de valider ces choses-là. Il fait, c'est toi qui écoutes et tu me dis si on valide ou pas, donc... On avait arrosé largement la réception de ce disque, de ce CD. Et puis voilà, j'ai validé le truc. Voilà. Il a laissé en illustration sur le dos de ma chemise de serveur un requiem pour un Kylian signé Gainsbourg en souvenir.
Et alors, vous êtes aussi un auteur prolifique. Hein, donc on peut encore renvoyer à votre site kylianstangel.com. On voit que vous avez publié de nombreux ouvrages sous votre nom, des ouvrages en collaboration et des ouvrages voilà, qui sont sous votre direction. Alors d'ailleurs, aujourd'hui, voilà, on aimerait bien parler de l'ouvrage « Identité alimentaire et héritage gastronomique » qui est paru chez L'Harmattan. Donc comment on peut le définir, cet ouvrage? Est-ce que c'est un tour du monde? C'est peut-être pas exact.
Ah non.
Non, c'est...
Non, le but est de comprendre un petit peu, enfin même pas de comprendre, mais de découvrir que la notion d'alimentation n'est pas qu'une notion de production et d'assimilation et d'incorporation. C'est aussi quelque chose qui dessine un environnement au sens spatial et temporel. Et que cet environnement, on le vit dans l'instant T et on veut le transmettre. C'est toute la problématique de notion de patrimoine. C'est est-ce que le patrimoine, c'est quelque chose que l'on veut sauver, sauvegarder, mettre sous cloche, ou au contraire, quelque chose que l'on veut développer afin de le transmettre à autrui, le garder ou le transmettre. Et derrière cette dimension patrimoniale, le patrimoine le plus populaire qui soit est justement la préparation culinaire que l'on fait chaque midi ou chaque week-end. Un tant soit peu, c'est-à-dire, je veux dire par là, avec toute la limite ou la ferveur que l'on veut donner à cette production culinaire individuelle. Et c'est ce geste, ce savoir-faire, qui finalement va créer notre identité. Donc dans cet ouvrage, j'ai fait appel à quelques anthropologues ethno qui sont venus apporter leur vision en faisant un focus sur un territoire ou un savoir-faire et essayer et montrer en quoi ces éléments finalement méritent d'être transmis.
Et alors, c'est dans ces articles, c'est aussi des voyages dans le temps et dans l'espace. Je prends par exemple l'article L'ail et le piment, marqueur identitaire en Méditerranée occidentale. Donc là, on a, comment dire, on remonte aux origines, c'est pas vraiment le mot, mais en tout cas, d'où viennent l'ail et le piment, comment ils ont voyagé dans l'espace et dans le temps, qui les a amenés, où et pourquoi, et comment ça a été.
Et comment ça a construit une société, tout à
Voilà.
fait. Donc ça peut être non seulement par l'apport d'un produit, comme on est en train de le dire, et l'arrivée d'un produit construit une société, ou au contraire, si ça ne construit pas, ça peut déconstruire une société. On peut regarder encore quelque chose de plus proche de nous, le cassoulet. Tout le monde sait ce que c'est que le cassoulet quand on vit à Tours. Mais quand on arrive sur le territoire du cassoulet, on s'aperçoit qu'il n'y a pas un territoire, mais trois, avec Montauban, Carcassonne et Toulouse, chacun qui y va de sa recette particulière, où dans un endroit, ça sera à base de mouton, d'autres de porc, d'autres d'un mélange de viande, etc. Donc on voit finalement l'identité d'un territoire va tenter d'être significative sur une spécificité de la recette afin de construire une expérience vécue, un storytelling sur ce territoire, quitte à découper même les territoires ou à leur donner une élasticité. On est toujours sur une notion de paradigme et d'imaginaire, compte tenu que si on prend un autre exemple encore proche de nous, à la choucroute par exemple, où pour moi j'ai toujours imaginé que la choucroute, tout le monde savait ce que c'était avec de la saucisse hein, et des éléments issus du porc. Sauf que quand j'étais prof à Marseille, que j'ai proposé d'évoquer la choucroute, les élèves m'ont imaginé tout de suite signifier que j'avais tort, étant donné que la choucroute là-bas est à base de poisson et pas d'autre chose. Et finalement, quand je suis arrivé à l'UHR, j'ai entendu des historiens qui m'ont expliqué que la choucroute, dans ses origines, n'était faite qu'à base de quenelle de veau et nécessairement pas du porc, justement. Donc on s'aperçoit qu'on pense qu'une recette peut être identitaire sur un territoire, peut créer tout le paradigme d'un territoire. Or, quand on gratte un peu, on s'aperçoit que cette recette peut avoir d'autres significations géographiques ou historiques.
Mais alors peut-être un exemple comme la pizza, parce que comment dire, je pense qu'il y a plusieurs pays ou en tout cas villes ou endroits qui considèrent légitimement peut-être que la pizza c'est une recette de chez eux.
Alors, petit à petit, on a en ce moment, à notre époque, des éléments des prescripteurs qui nous amènent des éléments de lecture. Concernant la pizza, a été inscrite au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO il y a 3 ou 4 ans, je crois, la pizza napolitaine, comme étant finalement, non pas l'origine de l'origine, hein, mais une des recettes originelles des pizzas italiennes. Concernant les autres territoires qui aiment à signifier que la pizza vient de chez eux, naturellement, on écoute un historien qui va nous expliquer que la migration va avoir construit par la suite une identité de pizza aux États-Unis particulière, ou que sur d'autres territoires, la notion d'utiliser une pâte d'y mettre dessus des éléments locaux, telle que la Flammkuch en Alsace, justement, qui est une forme de pizza, avec l'absence de tomates, par contre, et uniquement la présence de crème et de lardons, eh bien, on s'aperçoit que sur chaque territoire, il y a une pizza qui peut être présente, qui ne s'appelle pas nécessairement pizza, mais qui a aussi une raison d'exister, parce que elle s'est construite avant tout avec des produits locaux. Et la pizza, comme on la connaît, avec sa tomate, par exemple, ou ses autres éléments ensoleillés, on la connaît parce qu'elle signifie l'Italie à travers les produits qui sont assemblés sur la pâte.
Alors là, l'exemple que vous donnez de Flammenkuch, donc de pizza, est-ce que c'est-à-dire qu'il y a comme des constantes culturelles? De dire, ici, ça s'appelle pas une pizza, mais ça ressemble fortement quand même. Et peut-être que dans d'autres coins du globe, on va retrouver cette idée, somme toute, de pain plat avec des choses dessus. Est-ce que c'est.
Oui, tout à fait. Vous venez d'utiliser le mot pain déjà. Qu'est-ce que la définition du pain? Est-ce qu'on a tous la même définition du pain? C'est en fonction d'un territoire ou d'un autre. Certains vont l'appeler pita et d'autres vont l'appeler galette. Alors que ce même pain est fait des mêmes ingrédients. Donc on a voulu faire lever ou pas, auquel on a voulu donner une forme particulière allongée ou ronde. Donc on voit qu'en fonction des territoires, il y a des choix techniques ou des choix d'addition d'ingrédients locaux qui font évoluer une recette initiale de départ qui est malgré tout identique.
Et ça crée même des conflits, des fois. Des gens vont peut-être pas jusqu'à se taper dessus, et encore, sur l'idée d'une origine d'un produit ou d'un autre, parfois
Oui,
ça sous-tend des conflits.
alors, ou d'une origine terminologique, hein, quelquefois, voilà, ce fameux conflit humoristique de la chocolatine contre le pain au chocolat. On voit aussi des termes qui amènent simplement des contradictions de locavorité entre un produit qui est... Qui va utiliser le terme de flétrie ou pourri ou talé ou pour une même pomme fruit qui aura finalement évolué. Donc oui, on a des conflits. Et dans l'histoire, des conflits autour de produits, il y en a eu énormément, naturellement. Quelquefois même sous des imaginaires liés à la religion. On peut penser à la pomme de terre qui a pu trouver des terres d'adoption beaucoup plus rapidement que d'autres terres qui étaient beaucoup moins à même d'avoir envie de l'accueillir, pour des raisons religieuses, compte tenu que la pomme de terre pousse dans la terre, proche des morts, contrairement à la pomme fruit, qui s'appelait pomme en l'air, qui elle était proche du paradis, et pour lequel il était plus nécessaire d'incorporer afin de se rapprocher du paradis. Et comme on le sait, Parmentier a œuvré pour arriver à faire évoluer ces représentations. Donc, on voit que l'identité, en termes de. Je trouve plus mes mots. L'identité en termes de connaissances, de représentation du monde à travers les religions dans ce 17e et 18e siècle ont énormément participé à la création paradigmatique de la présence de la pomme de terre sur certains territoires.
Et alors, je vois qu'il y a aussi donc cet article sur comment dire autour des patrimoines alimentaires Peuls. Donc exactement, l'article de Salama Tousseau s'appelle Du patrimoine naturel au patrimoine culturel, appréhender les patrimoines alimentaires Peuls. Alors, qu'est-ce que cet article, entre autres, nous dit du rôle politique que peut avoir l'alimentation?
Alors, sur cet article, Salamatou nous montre finalement aussi l'élasticité de ce qu'est le territoire Peul et sur la lecture d'une production culinaire ou préparation alimentaire destinée à une communauté, il est clair que ce qui se définit dans cet article, la lecture de la communauté, c'est la place territoriale qu'on laisse à cette communauté. Elle montre que sur un espace géographique que l'on imagine avant tout dans une situation de nécessité, il y a malgré tout des acteurs qui sont là pour penser la nourriture plutôt qu'uniquement servir la nourriture. On pourrait imaginer que ces personnes ne sont uniquement que en train de réfléchir à produire pour se nourrir au sens régénératif. Et elle nous montre que finalement beaucoup d'acteurs réfléchissent à montrer que la nourriture est avant tout un élément de culture culinaire, communautaire, qu'on pourrait appeler sur notre vision régionalisante ou nationalisante, et qu'il n'y a pas de conflit, contrairement à ce que, enfin, par rapport à ce qu'on évoquait juste avant, qu'il n'y a pas de conflit chez eux entre leur nourriture et la nourriture des autres. Ils ne sont pas en train d'observer la nourriture des autres comme étant une bonne bouffe ou une malbouffe. Ils regardent leur activité propre, communautaire, sans essayer de faire une différence.
Ça, c'est d'autant plus intéressant, peut-être, dans notre pays où parfois les discours peuvent se crisper justement autour de l'alimentation, notamment dans la restauration scolaire, là, de dire, bah, en tout cas dans cet article-là, dans cette aire géographique-là, on a un rapport non conflictuel à l'alimentation.
C'est vrai qu'en termes de politique sur notre territoire, on a une vision très particulière de vouloir aussi idéaliser les choses. On estime qu'il y a un bon idéal, une bonne cuisine idéale, une bonne alimentation idéale. Sauf que cette bonne alimentation idéale, on l'a construit avec nos propres acquis, nos propres prérequis, notre propre éducation, notre propre culture alimentaire. On se construit un imaginaire idéal personnel. Et en plus, on veut en faire une idéalisation, c'est-à-dire qu'on veut le transmettre à tout le monde. On voudrait que tout le monde mange à la cantine, pour reprendre votre exemple de cantine, aussi bien que nous avons pu manger quand nous étions enfants. Sauf que nécessairement, tout le monde, tous les adultes d'aujourd'hui qui sont les prescripteurs de ces choix, n'ont pas tous mangé à la cantine quand ils étaient enfants. Certains rentraient manger à la maison parce que le système sociétal à l'époque n'était pas le même qu'aujourd'hui. Quand on entend l'idéalisation d'un bon repas à la cantine qui est évoqué par différents prescripteurs, on devrait aussi se demander si cette idéalisation est nécessaire pour l'ensemble des individus. J'entends par là qu'un choix qui doit être fait pour l'ensemble d'une société est-il le bon choix par rapport aux attentes de chaque individu au sens individuel.
Mais alors, je pensais aussi à l'idée de, que certaines cantines, pour rester sur la cantine, proposent par exemple des repas végétariens. Parce que au moins, il y a de grandes chances que le repas végétarien mette tout le monde d'accord, notamment sur les idées d'interdits alimentaires religieux. Du coup, de dire de faire ce choix-là, du coup, ça permet que tout le monde peut le manger.
Donc c'était. Là, c'est votre vision personnelle.
Peut-être que je me trompe complètement.
Je ne sais pas si d'obliger des gens à manger un type de menu fixe peut mettre tout le monde d'accord. Dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que ça peut faire découvrir quelque chose de différent. De même, quand on a obligé à limiter la production d'éléments frits, tels que les frites, une fois par semaine, quand on a obligé à avoir une certaine présence de produits bio, quand dans les années 82-84, on a eu les semaines du goût qui sont apparues pour faire découvrir des nouveaux savoir-faire ou des nouveaux produits. Au départ, il y avait vraiment une dimension très pédagogique dans la présence de ces chefs ou de ses producteurs à l'intérieur des cantines. Par la suite, comme on le sait, les grandes industries ont pris le relais pour ces différents intervenants et ces relais ont pu être critiqués étant donné que ça donnait trop de place aux produits laitiers ou aux produits sucrés. Mais pour revenir à ces découvertes qui peuvent être faites dans les menus des cantines, il est clair qu'on pourrait imaginer demain, d'avoir des cantines qui ont une forte dimension laïque, par exemple. Ça tombe bien, dans des écoles laïques, ça pourrait être sympa. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus nécessairement de galettes au mois de janvier, de poisson le vendredi, c'est plus vraiment lié à la religion, j'allais dire la bûche de Noël. Maintenant, on sait que Noël n'est pas nécessairement lié à la religion, bien que. Ou alors d'aller dans l'autre sens, de profiter de la présence toute l'année des enfants au sein des cantines pour leur faire découvrir, à travers ces recettes avec une substance d'origine religieuse, leur faire découvrir la variabilité culturelle, c'est-à-dire leur faire un nouvel an chinois, leur faire un Eid Kébir et autres religions, autres spécialités des différentes religions tout au courant de l'année qui sont liées à un calendrier de festivités. Donc on pourrait tout à fait, plutôt que de réfléchir dans des organes politiques à comment faire mieux manger nos enfants demain en les obligeant à ne manger que du végétal, par exemple, une fois par semaine, mais qui est une forme agréable, hein, comme il y a le poisson une fois par semaine, hein, mais qui pourrait être déplacé en termes de jours. On pourrait aussi faire découvrir d'autres choses, du mou, du dur, du croquant, du salé, du brûlant, de l'astringent, pour montrer finalement que les goûts, les saveurs, ne sont pas non plus limités à quatre, salé, sucré, acide, amer, mais que quand on va au-delà de notre culture, l'umami qui commence à être la cinquième saveur entendue par notre société, n'est toujours pas d'ailleurs dans les programmes scolaires de primaire, mais qu'il y a au-delà de l'umami, qui est plutôt japonais, il y a dans les d'autres civilisations asiatiques, j'allais dire, bien qu'il n'existe pas une civilisation asiatique, mais dans les civilisations chinoises, vietnamiennes, thaïlandaises, il y a l'astringent, le piquant, le brûlant, qui sont des saveurs aussi, et qui pourraient être découvertes à l'occasion de repas particuliers tout au courant de l'année dans les cantines.
Et alors cette proposition, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de la formuler auprès des concernés, disons?
Ah oui. Maintenant, les personnes concernées sont attentives. Maintenant, elles ont toujours une difficulté qu'on peut comprendre, hein, c'est le budget. En plus du budget, il y a la main-d'œuvre qui est un budget déjà loyal. Cette main-d'œuvre ne peut pas non plus se lancer à produire des menus avec des grandes différences de production, avec des grandes différences de savoir-faire et de matériel utilisé au quotidien. Il faut quand même aussi trouver une logique logistique à la production culinaire qui attend un grand nombre de couverts quotidiens. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une relativité sur toutes les idées qu'on peut avoir, une relativité qui est tout aussi, enfin, qui est pratique avant tout.
Je propose d'écouter une nouvelle musique. Alors, on va rester sur les haricots, il me semble, nous allons écouter Chico Buarque et Johanna.
Mulher, você vai gostar. Tô levando uns amigos pra conversar. Eles vão com uma fome que nem me contem. Eles vão com uma sede de anteontem. Salta a cerveja estupidamente gelada pra um batalhão. E vamos botar água no feijão. Mulher, não vá se afobar. Não tem que pôr a mesa nem dar lugar. Põe os pratos no chão e o chão tá posto. E prepare as linguiças pro tira-gosto. Puca, açúcar, cumbuca de gelo, limão. E vamos botar água no feijão. Mulher, você vai fritar. Um montão de torresmo pra acompanhar. Arroz branco, farofa e a malagueta. A laranja Bahia ou da seleta. Joga o paio, carne seca, tocinho no caldeirão. E vamos botar água no feijão. Mulher, depois de salgar, faça um bom refogado que é pra engrossar. Aproveite a gordura da frigideira pra melhor temperar a couve mineira. Diz que tá dura, pendura, fatura no nosso irmão. E vamos botar água no feijão.
Bonjour, je suis Kylian Stangel, auteur gastronomique. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 10 conseils pour être un gastronome, ou tout du moins, comment organiser un repas entre amis afin qu'il soit convivial. Donc tout d'abord, on peut subdiviser ce moment en 3 parties. Tout d'abord, la notion de partage, d'échange. S'intéresser à la personne qui est en face de nous, ou les personnes si elles sont plusieurs, afin d'échanger avec elles sur les différents sujets de discussion. Ensuite, la notion de plaisir, qui doit être le même ressenti autant pour vous que pour les autres, mais avant tout, il serait préférable de penser aux autres. Et puis ensuite, s'intéresser un petit peu aux produits, naturellement. Car pour bien argumenter, pour bien valoriser ce que vous avez préparé, pour que le repas soit convivial et chaleureux, il ne faut surtout pas parler de sa technique culinaire, mais il faut avant tout argumenter les produits. Donc sur la notion de partage, il y a quelque chose à imaginer. Il faut s'intéresser à l'ambiance, essayer de créer une ambiance autour de la table, autour du repas qui soit
convenable, mais qui soit surtout efficace pour l'ensemble des personnes qui sont à table. Si vous avez un dîner d'affaires, il faut naturellement avoir une tenue vestimentaire et un sujet de discussion qui correspondent aux personnes autour de la table. Un repas qui est plus un tête-à-tête avec une dulcinée, pourquoi pas? Dans ce cas-là, il faut avoir des sujets de discussion qui correspondent. Dans un deuxième temps, il faut penser au temps, justement, au temps du repas. Le temps du repas aujourd'hui est quelque chose qui diminue de plus en plus, et pour qu'il reste agréable, il faut qu'il soit dans une durée de temps qui corresponde aux personnes. Je reviens à mes deux exemples. Entre un repas d'affaires ou un repas agréable avec une jeune fille, évidemment, le temps donné ne sera pas le même, et l'attente qui peut exister entre les repas est aussi un sujet bien délicat. Si vous avez cuisiné vous-même les produits, n'hésitez pas à valoriser vos produits. Pas obligatoirement vos recettes, mais vos produits. Les labelliser grâce à des labels de qualité qui existent ou des labels d'origine géographique. Vous pouvez valoriser la notion de terroir, l'anecdote historique et surtout la saisonnalité. N'hésitez pas à valoriser vos produits. À travers eux, vous valoriserez vos recettes. Vos produits sont là aussi pour valoriser les expériences gustatives, autant les vôtres que celles des convives. Si vous écoutez vos convives, à la fin du repas, ils auront l'impression d'avoir passé un bon moment. N'oubliez pas naturellement, dans la création de votre menu, pensez à ce qu'il y a de plus naturel, l'équilibre alimentaire, et surtout, dans un menu, variez les expériences gustatives. Variez la notion de saveur, la notion d'effet pimenté, d'acidité. L'ensemble de ces éléments apporteront plein d'éléments de discussion et vous permettront de discuter sur différentes expériences des convives. Alors en conclusion, pour passer un excellent moment convivial, pour être un bon gastronome à table, il ne résiste qu'un seul mot à travers tout cela. C'est la notion de plaisir. Si vous pensez à donner du plaisir plus qu'à en prendre, vous êtes sûr que vous récupérez du plaisir du fait d'avoir vu que l'autre en prend.
Alors voilà, de retour dans la Méridienne sur Radio Campus Tours et Kinyan Stangel, on vient d'écouter une vidéo minutefacile.com, présentation Kinyan Stangel. Et donc ça fait partie d'une série de vidéos. Qu'est-ce que vous aimeriez en dire?
Oh, bon, c'est des vidéos qui m'avaient été proposées de faire il y a une dizaine d'années. Maintenant, je termine sur cette notion de plaisir et il est clair que le plaisir est une fois de plus quelque chose de très personnel. En aucun cas, on peut arriver à signifier que le bon repas qui donne du plaisir est quelque chose d'universel et d'absolu. Certains vont prendre du plaisir à travers l'excès alimentaire, d'autres prennent du plaisir à travers la dépendance alimentaire, d'autres prennent du plaisir uniquement à travers le désir sans vraiment l'assouvir. Certains prennent du plaisir uniquement en étant devant une vitrine ou un menu et c'est en rentrant dans le restaurant, en choisissant sur la carte, en se faisant servir, en voyant l'assiette devant leurs yeux, qu'ils vont vraiment trouver que là, il y a quelque chose de bon, et c'est ça qui va créer leur identité personnelle. Alors qu'une fois qu'ils auront incorporé le produit, le plaisir ne sera plus nécessairement le même. Au moment d'incorporer un produit, certaines personnes arrivent à être des analystes organoleptiques, prennent du plaisir à faire cette analyse, alors que d'autres, et moi pour ma part, c'est plus mon cas, je prends plus de plaisir à vivre le contexte temporel plutôt que d'analyser de point de vue organoleptique. Et il en est même pour la dégustation d'un vin. Certains vont plutôt chercher la convivialité de partager un verre, alors que d'autres vont estimer que le vin est bon parce qu'ils auront su faire ressortir les tanins et autres éléments olfactifs ou gustatifs. Donc oui, pour revenir sur ce que je disais dans cette vidéo, avant tout, c'est, pour ma part, c'est l'échange que j'apprécie plus dans la réussite d'un bon moment alimentaire ou culinaire.
Et alors cette idée, est-ce qu'on la retrouve peut-être dans les articles de cet ouvrage ?
Alors, on les retrouve à travers... Alors, cet ouvrage est aussi la continuité d'un autre ouvrage que j'avais fait précédemment, qui s'appelait aussi « Identité alimentaire et culinaire », enfin « Héritage exactement alimentaire ». Vous cherchez, vous ne le trouvez pas, celui-ci.
Ouais.
Non, « Héritage culinaire » qui montrait plus le même sujet, mais à un niveau individuel, alors que là, il a un niveau plus communautaire. Et il est vrai que dans le fait d'essayer de donner une identité à ce que l'on incorpore, je rappelle que dans le mot incorporer, hein, il y a le fait de faire rentrer à l'intérieur, à l'intérieur de notre corps, des éléments qui ont été construits par d'autres. J'entends par là que quand je mange une recette à base de pommes de terre, il y a la pomme de terre qui a été préparée, produite par un agriculteur qui a laissé sa sueur et sa propre identité. Et puis après, il y a la personne qui aura fait ce gratin de pommes de terre qui aura aussi laissé sa propre identité et le moment qu'il aura laissé aussi dans la préparation de cette recette, le moment vécu. Donc j'incorpore à l'intérieur de mon corps deux autres acteurs, deux moments, deux storytelling. Et je grandis moi-même en tant qu'individu en ajoutant ces cellules à mon corps. Je fais grandir mon corps et également mon esprit dans cette production d'incorporation. Et c'est cela qui crée à la fois une forme d'individualité, si je pense réellement ce que je mange, et qui va créer cette personnalité afin que, comme dit un adage, je mange pour être, je mange donc je suis, ou je suis ce que je mange. Chacun y verra soit un adage de Molière, soit un adage de Lévi-Strauss. C'est cela qui... C'est ces éléments-là que j'essaye à chaque fois de transmettre dans ces ouvrages collectifs ou monographiques, au sens où il n'y a pas que l'aspect proustien, avec les saveurs d'enfance, qui viennent construire une identité. Il y a tout ce que l'on rencontre au courant d'une vie, que ce soit les rencontres avec des individus, les voyages que l'on fait, les repas que l'on aura vécu chez tel ou tel hôte, et puis les transformations de notre vie. On oublie pour beaucoup qu'il y a un élément, un moment particulier dans notre vie qui nous fait reconsidérer l'individu mangeur que nous sommes. C'est le moment où on se met en couple. Tout le temps qu'on est célibataire, on fait des choix alimentaires. Et les choix alimentaires, ce n'est pas uniquement faire ses courses. C'est ce que j'utilise comme poêle, le temps que je fais cuire, la manière dont je vais dresser ma table, le lieu où je vais manger, le temps que je vais prendre pour prendre ce repas. Tous ces éléments, je vais les construire en tant qu'éléments identitaires au moment où je prends mon indépendance, je quitte mes parents et je me retrouve seul dans mon studio. Mais du jour où je me mets en couple, eh bien, je suis obligé de faire des concessions. Pour arriver à conserver mon couple, en général, c'est mieux. Et cette première concession, eh bien, ça va être d'écouter les rigueurs, les attentes, les besoins, les plaisirs que prend l'autre au moment de manger. Le fait de manger en tête à tête crée une nouvelle individualité, une nouvelle identité de mangeur que je suis. Et on crée le premier début d'une communauté à deux. Pour ma part, eh bien, comme beaucoup de garçons, je mangeais certainement trop gras quand j'étais seul et madame m'a fait découvrir le végétal. Madame m'a fait découvrir certainement la cuisson à l'eau, pour oublier les plaisirs proustiens que ma grand-mère m'avait laissés en faisant cuire les pâtes avec de l'huile, une noisette de beurre et puis une cuillère de crème à la fin. Etc., etc. Madame, mon épouse, m'a appris finalement à relire ce qu'était mon identité de mangeur. Jusqu'au jour où, naturellement, il y a un autre événement dans la vie que sont l'arrivée d'un enfant ou des enfants et qui nous font aussi reconstruire. Et un enfant évolue tellement vite qu'au quotidien, chaque année, il nous fait revoir notre identité de mangeur en l'accompagnant à McDo, puis en l'accompagnant découvrir telle ou telle formule de restauration ou technique culinaire. Donc, cela évolue tout au courant de notre vie jusqu'à naturellement à l'arrivée à l'EHPAD où on s'aperçoit que là, par une notion de mastication qui n'est plus la même, hein, les dents ne sont plus les mêmes, de déglutition qui n'est plus nécessairement la même, et puis de présence environnementale des autres personnes qui mangent avec nous, on se reconstruit une nouvelle identité de mangeur. Donc, pour dire que l'identité individuelle ou communautaire, est une élasticité qui ne cesse de bouger, tantôt seul, tantôt accompagné, plus ou moins restreint, et une élasticité aussi qui est dans une variabilité tout au courant de notre vie, en fonction du lieu dans lequel on vit et de l'âge que l'on peut avoir et des outils mécaniques et physiologiques que l'on peut avoir à notre disposition pour manger.
Alors par curiosité, aller en famille au McDonald's, comment vous le vivez? Vous dites que c'est une expérience anthropologique?
Alors, on a cette année, là, on rencontre François Rabelais, le titre c'est « Gastronomie pour tous ». Point d'interrogation. Je ne cesse de combattre un mot, c'est le mot malbouffe, qui rapidement est assimilé au fast-food. Le mot gastronomie est un mot qui mérite d'avoir une définition variable, au sens où certaines personnes qui n'ont pas les mêmes disponibilités financières que d'autres vont pour le repas exceptionnel de l'année, l'anniversaire de l'enfant, vont aller se faire un repas dans un McDo ou dans une autre restauration rapide ou dans un flunch. On mérite de parler de flunch vu que celui de Tours va fermer. Et on voit finalement que ces familles nécessiteuses ont eux-mêmes une définition très personnelle de ce qu'est un repas entre guillemets gastronomique, un repas exceptionnel. Ce qui n'est pas naturellement la même définition pour quelqu'un qui est très aisé et qui lui verra que le caviar qu'il mange au quotidien, eh bien il faut savoir qu'il existe un bon et un mauvais caviar, c'est-à-dire un caviar du dimanche et un caviar de la semaine. Donc pour répondre à votre question, quand je vais manger un McDo avec mes enfants, eh bien je leur avoue que j'y prends pas un plaisir intense en termes d'incorporation, par contre je prends un plaisir de partage du moment.
Voilà, donc ce que vous dites, n'est-ce pas, c'est que finalement, pour les personnes qui ont plaisir, en tout cas, à aller dans ce fast-food, dans une restauration comme celle-là, c'est de dire qu'il compte autant que le manger, c'est peut-être tout le tour, en fait, tout le moment, parce que, en fait, c'est un repas exceptionnel aussi parce qu'on n'est pas à la maison, en fait, en tout cas, on n'est pas chez soi, donc il y a tout le fait d'aller vers aussi.
Tout à fait, il y a le fait de se déplacer pour vivre un acte particulier, et puis elle fait aussi de pouvoir à cette occasion-là peut-être réunir l'ensemble des acteurs qu'on a envie d'avoir autour de la table, et ce qui n'est pas mis en pratique obligatoirement au quotidien à la maison.
Alors on peut rappeler quand même le titre de cet ouvrage, Kilian Stangel, Identité alimentaire et héritage gastronomique, paru chez L'Harmattan. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose sur cet ouvrage ?
Ah, y a plein de choses à rajouter. On n'a pas parlé de la transmission de mère en fille, de père en fille, de père en fils, etc. etc. On n'a pas parlé de la transmission du geste. Il y a la cérémonie du thé qui est évoquée dans ce livre, par exemple, qui est un savoir-faire, un rituel bien particulier. On n'a pas parlé aussi de la notion de la gestualité au sens du couteau, de la flamme, beaucoup d'autres symboliques qui mériteraient d'avoir une lecture sémio de tous nos actes alimentaires. On n'a pas parlé de la différence entre l'artisanat culinaire qui devient un art, où est la frontière entre artisanat et art. Enfin, voilà, il y a plein de symboliques qu'on aurait encore creusé ensemble.
Eh bien, ça promet d'autres émissions, peut-être, espérons-le. Et alors, en fait d'ouvrage pour nos auditeurs, on peut évidemment leur recommander cet ouvrage que vous publiez chez L'Harmattan, mais peut-être qu'on peut en suggérer d'autres. Alors, je me suis autorisée à en sortir quelques-uns de ma bibliothèque. Donc voilà, La cuisine molle pour édenter, aux éditions Les Carnets du dessert de Lune. Donc c'est une maison d'édition belge. Et là, ce qui me semblait intéressant, c'est que c'est des recettes de cuisine, disons, écrites de façon poétique. Donc il y a tout un jeu autour de la langue, voilà, il y a des recettes de... peut-être pas du monde entier, mais en tout cas de plusieurs pays, c'est aussi quelque chose qui est illustré. Et donc je pense peut-être que ça peut permettre aussi de lire d'une autre façon des recettes de cuisine, parce qu'on a peut-être l'image un peu aride, parfois des ouvrages de cuisine. Voilà.
Et le mou est quelque chose qui touche totalement notre société. Hein. On a justement notre communauté qui se tourne de plus en plus vers une cuisine molle, que ce soit à travers les hamburgers ou que ce soit à travers les productions culinaires de Thermomix. La texture dure disparaît de plus en plus.
Le fameux Thermomix, c'est vrai que lui aussi, là, on en entend parler, notamment pour la contrefaçon proposée par un magasin discount. Donc là, j'ai aussi La cuisine totalitaire de Vladimir et Olga Kaminer. Donc ça, c'est paru aux éditions Gaïa. Donc ça se trouve, par exemple, dans la librairie Livres et Vins, Les Saisons, donc de Tours. Et donc là, c'est, disons, un voyage dans la culture de l'ex-URSS. Donc on a des anecdotes assez amusantes et des recettes. Donc c'est un voyage, disons, romancé, voilà, la cuisine romancée. Donc c'est une autre façon de s'intéresser peut-être au manger.
Et qui montre également qu'on se fait beaucoup d'idées, hein, en Russie, comme le dit la quatrième de couverture, en Russie on ne mange pas que du caviar tous les jours. On se doute bien.
Voilà. Et puis, alors là, vous me disiez tout à l'heure que vous connaissez évidemment, bien sûr, cette collection. Alors là, puisqu'on parlait des légumes, hein, au secours, les véganes débarquent. voici un ouvrage, Ferrandi, école de cuisine bien connue, je pense. Donc là, c'est le volume consacré aux légumes. Donc il y a plein de recettes et il y a surtout des techniques comment bien découper des légumes. Voilà, donc c'est intéressant si vous voulez vous perfectionner ou varier un peu votre alimentation. On sent que vous avez contribué.
Oui, pour ma part, j'ai fait l'ouvrage Ferrandi sur les termes techniques, le dictionnaire des termes techniques. Alors, Ferrandi est une école hôtelière qui fait parler d'elle en ce moment parce que, naturellement, elle a un fort accent sur la communication. Maintenant, les écoles hôtelières, il y en a pléthore en France, hein, qu'elles soient publiques, privées, associatives ou institutionnelles. Et elles méritent toutes naturellement d'être mises en valeur aussi bien les unes que les autres.
Il y a un autre ouvrage dont vous aimeriez dire un mot peut-être avant de terminer cette émission, Kylian Stangel.
Ah oui, 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 vous parliez de poésie et il y en a plein des ouvrages, mais l'ouvrage de Weiss qui s'appelle La Flamme est un ouvrage de poésie qui travaille justement sur la lecture identitaire et surtout sur le partage du repas à travers des poèmes. Et c'est un tout petit ouvrage très très fin qui est facile à lire et qui date un peu hein, maintenant, mais qui est sympathique. Et puis sinon, en termes d'ouvrage au pluriel, j'invite tout le monde, tout étudiant à venir pousser les portes de la bibliothèque de l'IEHCA, l'Institut européen d'histoire des cultures et alimentation, qui est au 116 boulevard Béranger. Ou à contacter la bibliothécaire par mail encore pendant cette époque que nous sommes, où elle se fera un plaisir de vous fournir ou de vous faire envoyer les ouvrages que vous voudrez sélectionner sur le site internet, vu que la bibliothèque est en ligne. Et c'est la plus grosse bibliothèque sur les cultures alimentaires d'Europe. Y a un choix qui est phénoménal, et à chaque fois que quelqu'un rentre dans cette bibliothèque, même si ses murs sont ce qu'ils sont, à chaque fois que quelqu'un rentre dedans, il a du mal à en sortir en général.
Merci Kylian Stangel d'avoir accordé du temps à cette émission, La Méridienne. Et je propose de terminer cette émission en écoutant une proposition musicale de Sébastien, donc qui est mon collègue, qui s'occupe des ateliers radio et qui accompagne l'équipe de programmation musicale. Donc il nous propose d'écouter Club Sandwich. Voilà. Donc il est temps de souhaiter à tous une excellente journée à l'écoute de nos programmes.
l'art du pain complet. C'est d'ici j'ai l'art du plein complet. Club sandwich faut nous appeler. Pourquoi ce nom? C'était mieux que cassoulet. Y'a trop de musique pasteurisée. MP3 yophilisé. Où c'est club sandwich Champs-Élysées. De la musique bio bras de flow déguisé. Des rimes poulet sauce mayonnaise. Dans ta bouche ça glisse à l'aise. Comme c'est d'ici intraitable. On se tient pas bien à table. A.K.A. c'est David Kefta. J'ai le groupe et le groove qui te disent lève toi. Tu découvres mais t'es ouf mec tu connais pas. Mais t'es con t'as du coup bah c'est pas normal. Amoureux. Sur le lac, mon sandwich, il est savoureux. Je pose un accro salade, qui n'est pas coûteuse, marmelade, jambon de parme, chatouilleuse, je t'ai fait manger, savoure tous ces ingrédients que j'étais mélangé. Club sandwich, de